Bon vendredi à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Les Voix de Service Magazine, édition du vendredi. C'est la voix de Catherine Brunet parce que Hélène Bédard est malade aujourd'hui, malheureusement. Mais Francine Forget est avec moi. Bonjour Francine.
Bonjour Catherine. Et quand même assez en forme.
En forme.
Oui.
Probablement la seule du groupe parce que moi aussi, ça commence un peu... il faut y passer, hein, c'est l'hiver.
Oui, mais... ben moi, j'ai fait ça de façon très prématurée. Alors maintenant, ça vient.
Oh, mais attention, ça va peut-être revenir. C'est ça le danger avec...
prophète de malheur.
Ah non, c'est vrai. Hein, on touche du bois.
Oui.
Alors, aujourd'hui au programme, qu'allez-vous nous proposer, pardon?
Mais différentes choses, évidemment, toujours du côté technologique, des applications qui sont une pour planter des arbres, une autre pour mieux gérer la dépression. Une entrevue avec une chercheuse de 99 ans, Madame Milner. Et on va sûrement commencer avec un beau texte du philosophe Normand Baillargeon.
Oui.
Oui, sur l'éthique des voitures.
Oh, mais ça se peut que moi aussi, je lise un texte de Normand Baillargeon.
Bon.
Ça va être le vendredi, Normand.
Normand Baillargeon.
Voilà. Moi, je continue toujours dans la revue Voir du mois de février. On arrive à sa fin, parce que le mois de février aussi arrive à sa fin. Un petit peu de musique, puis quelques chroniques philosophiques. Voilà. Alors, Francine, vous lancez le bal de ces articles. Allez-y.
Oui, comme convenu, je commence avec Normand Baillargeon, un texte qu'il a intitulé « Je doute, donc je suis ». C'est dans Québec Science, édition janvier-février 2018, et c'est sur l'éthique des voitures autonomes. Choisiriez-vous de tuer une personne pour en sauver cinq? Voilà le dilemme du tramway, un scénario utilisé depuis des décennies en éthique, mais qui est plus pertinent que jamais avec l'arrivée des voitures autonomes. Un tramway fonce à vive allure, sans pouvoir freiner, vers cinq personnes qui se trouvent plus loin sur les rails. Vous assistez à la scène et vous pourriez abaisser un levier qui ferait dévier le train vers une autre voie. Les cinq personnes seraient ainsi sauvées. Mais sur cette seconde voie se trouve une autre personne qui, elle, mourra. Abaissez-vous le levier? De nombreuses études ont démontré que la grande majorité des gens, en fait 90 %, disent que oui, justifiant leur choix par un principe utilitariste selon lequel mieux vaut sacrifier une vie pour en sauver cinq. Mais voilà une troublante variante de ce dilemme, initialement posée par la philosophe britannique Philippa Foot en 1967. Le train fonce encore vers cinq personnes. Cette fois, vous assistez à la scène depuis une passerelle surplombant les rails. Vous êtes une personne frêle, mais à vos côtés se trouve une personne obèse, suffisamment lourde pour arrêter le train. La poussez-vous sur les rails? Ici, le même calcul utilitariste commanderait de répondre que oui. Mais cette fois, la majorité des gens assure qu'ils ne le feraient pas. Expliquer cette différence a fait couler beaucoup d'encre. Il serait ainsi moralement plus difficile d'être celui qui tue volontairement quelqu'un que d'être celui qui choisit, entre deux accidents inévitables, le moins terrible d'entre eux. Et il y a un monde entre actionner un levier et pousser un être humain devant un train. Avec l'avènement de la voiture autonome, mais aussi des agents de conversation intelligents, et des robots dans les usines, les hôpitaux et ailleurs, de telles expériences de pensée n'ont jamais été autant d'actualité. Imaginez une voiture sans un conducteur, dont l'algorithme peut prédire qu'elle glissera sur une plaque de verglas et tuera cinq piétons. Ce même calcul pourrait toutefois lui commander de dévier de sa route à tel moment, et cette fois, en tuer un seul. Ce problème du tramway se posera donc dans la réalité, rarement, certes, mais il se posera. Quelles seront les règles inscrites dans l'algorithme éthique de la voiture? Ces instructions seront-elles utilitaristes? Qui en décidera? Les programmeurs? Le fabricant de la voiture? Un consensus social? Ces questions sont aussi difficiles qu'incontournables. D'autant qu'il y aura des cas où, pour revenir à l'expérience de pensée du train, il n'y aura que vous sur la passerelle et vous êtes obèse. Ce cas, c'est celui où, pour sauver deux personnes ou plus, un calcul utilitariste demandera le sacrifice du passager de la voiture autonome. Mais qui voudrait acheter ce genre de véhicule? Les gens souhaitent que toutes les voitures autonomes proposées sur le marché soient utilitaristes, sauf la leur, car ils souhaitent privilégier la vie de leurs passagers. On se retrouve ainsi avec ce que les économistes appellent le problème du resquillage, ou du passager clandestin, le free rider, où chacun veut profiter d'un bien commun auquel tous les autres contribuent sans y contribuer soi-même. La voiture autonome, qui conduit de manière plus sécuritaire que l'automobiliste lambda, dont les réactions sont parfaites, qui n'est jamais fatiguée ni droguée, sauvera certainement de très nombreuses vies. Mais elle devra aussi être conçue pour résoudre des dilemmes éthiques comme ceux que j'ai évoqués, et même d'autres, qu'on ne peut que soupçonner. Prenons le risque d'en imaginer quelques-uns. Le principe d'impartialité interdit que la voiture autonome puisse avoir accès aux données personnelles, âge, antécédents médicaux, handicap, par exemple, des personnes impliquées dans un dilemme éthique et en tiennent compte pour le résoudre. Mais pourra-t-on le garantir? Devrait-on, comme on le propose parfois, permettre à tout acheteur de décider de l'algorithme éthique de sa voiture, la rendant selon son bon plaisir, altruiste, égoïste ou neutre? Le principe d'égalité de traitement semble interdire que l'on puisse proposer à la vente une telle option, ce qui ne la rendrait accessible qu'aux personnes plus fortunées. Passerons-nous outre ce principe? Un marché noir des programmes éthiques, ou plutôt immoraux, pour voitures est-il à craindre? Ce n'est pas tout, car il se pourrait aussi que l'apprentissage profond, le deep learning, amène à revoir les termes dans lesquels nous posons aujourd'hui ces questions. Plutôt que suivre un programme éthique inflexible, les machines apprendraient de leur interaction avec le monde et feraient preuve de flexibilité. Par exemple, ce robot qui soigne ce vieillard malade, ayant appris à concilier respect de son autonomie et le fait qu'ils doivent prendre des remèdes, saurait négocier avec son patient et décider quand et jusqu'à quel moment il est souhaitable de reporter provisoirement sa médication. Chose certaine, il faudra sérieusement parler de tout ça, car pour le moment, la robotique a une longueur d'avance sur la robo-éthique. Il est urgent de la combler. Alors une réflexion de Normand Baillargeon, comme toujours fort intéressante dans le Québec Science.
Donne-moi le doute, la douleur, le malaise, le chaos, le trouble. Donne-moi le doute, le stress, le soupçon, le frisson, le vertige. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque, et de vous, je me fous. Donne-moi le doute. La douleur, le doute, le chaos, le trouble, donne-moi le doute. Donne-moi le doute, l'indécis, l'épreuve, le souci, le spleen. Donne-moi le doute, l'ironie, la satire, le brisé, le grave. Vos vérités approximatives, vos divinités, tout autant. Mon seul salut, le cynisme. Je n'en ai rien à foutre de votre conscience, rien à foutre de vos devises, rien à foutre de vos cadences, rien à cirer de vos assurances. Je m'assume, je vous assure. Donne-moi le doute, le malaise. Le doute, le stress, le soupçon, donne-moi le spleen. le désordre, le différent, la dissidence. Donne-moi le doute, la cohue, le confus, le mêlant, le mêlé. Je n'en ai rien à foutre de vos sophismes, rien à foutre de votre rhétorique, rien à foutre de vos métaphores, rien à cirer de vos certitudes. Je m'en moque et de vous, je me fous. Donne-moi le doute, le redoutable, le doute, le mêlant, le mêlé. Donne-moi le spleen. Donne-moi le doute et l'orage. Donne-moi.
Éloge du doute, Jim Corcoran.
Merci Mathieu. On poursuit avec un autre article de Normand Baillargeon, cette fois-ci dans Le Voir du mois de février. C'est sa chronique qui s'appelle Prise de tête et c'est un article qui s'appelle Brel. Alors de qui on va parler? Suspense.
On s'en doute.
À cette époque, en 1978, le jeune homme que j'étais écoutait sans s'enlacer Les Marquises, l'ultime disque. Celui que Brel, déjà très malade, était venu enregistrer à Paris depuis son exil dans ses îles. Je pense aujourd'hui, et je pensais alors, que c'était un album sublime, le dernier chef-d'œuvre que celui qui, avec quelques rares autres, a porté au plus haut l'art d'écrire des chansons. Brel n'est certes pas un philosophe, et il tenait même la chanson pour un art mineur. C'est dire s'il n'avait aucune prétention sur ce plan. Mais il n'est pas interdit de rechercher chez lui, ou du moins chez le héros brélien de ses chansons, quelque chose comme une vision du monde. J'y lis pour ma part ce que j'appellerais volontiers une métaphysique de l'excès, ce qui l'aurait fait sourire, je pense. L'Ostendaise est une chanson moins connue, mais elle donne une des clés de cette vision du monde du héros brélien. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend, et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Attendre est un acte passif, mais espérer, rêver, c'est déjà engager sa conscience dans un rapport actif au réel. Le héros brélien existe en portant une espérance. Mieux, il existe par cette espérance qu'il porte. Que celle-ci soit finalement comblée ou non importe peu. Le fait d'espérer est à lui-même sa fin. Voyez le héros de la chanson Madeleine. Il espère l'aimer, s'inscrit dans ce temps de l'espérance, en prévoit déjà toutes les promesses. On mangera des frites, on ira au cinéma. Mais cette fois encore, Madeleine ne viendra pas. Pourtant, il se le promet, demain, il l'attendra encore, car demain peut-être que demain. Ce temps passif, ce temps que tous ceux qui n'espèrent plus rien, de ceux qui ne se projettent plus dans le futur en voyageant sur la fusée Espérance, de ceux qui ne sont pas en mer, ce temps-là, c'est celui des simples vivants. Ce sont les anti-héros brilliens. Ils foisonnent dans l'univers de Brel. Ce sont par exemple les vieux. Peu importe leur âge, ceux qui ne rêvent plus, ceux et celles qui vivent à écouter la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit j'attends. Celle du temps qui attend, celle-là, ceux-là ne viendront même pas pleinement leur mort, ne vivront même pas pleinement leur mort, pardon. Ils s'endorment tout simplement. Mais les anti-héros, ce sont surtout les bourgeois qui, chez Brel, ne désignent pas tant une catégorie socio-économique qu'un état d'esprit, celui de ces gens-là, ceux de ce milieu étouffant dont on ne s'en va pas, de ces gens chez qui on compte. Il est intéressant de noter à ce propos combien, dans les chansons de Brel, contrairement à ce que constaterait chez ces illustres contemporains que sont Brassens ou Ferré, le politique au sens strict est peu présent. Les chansons Jaurès et les F tardives en sont de rares contre-exemples. L'envers du monde de ces gens-là, le monde de ceux qui rêvent et espèrent, est décrit chez Brel par diverses métaphores, parmi lesquelles je retiendrai récurrente celle de l'enfance. Qui peut nous dire quand ça finit? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien avec de l'imprudence. Et celle du Far West. Ces mondes sont toujours menacés, souvent même vaincus, par ceux qui attendent. Mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il a trouvé. Je devenais indien, pourtant déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far West. Mais dans ces mondes, si du moins il y vit pleinement, on fera la rencontre de ces expériences limites que procure la métaphore de l'excès à laquelle Brel nous convie. Elles ne sont pas sans risque, mais comme la vie dans le temps qui espère, elles sont à elles-mêmes leur fin. La mort est une de ces expériences limites. La mort m'attend comme une vieille fille au rendez-vous de la faucille. Elle est omniprésente dans les chansons de Brel. J'arrive à mon dernier repas, Fernand, et d'autres encore. Vivre pleinement, c'est vivre avec cette idée de la mort, qui signale le terme, redouté mais connu et assumé, de ce rapport au temps du héros brélien. Elle n'est en rien tragique, mais chez eux qui se contentent de l'attendre, elle a pour nom vieillir. La conviction du héros brélien est « Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. » L'amour est une autre de ces expériences limites. Elle est aussi risquée. Elle conduit parfois au zénith et à la plénitude. Quand on n'a que l'amour, nous aurons dans nos mains, amis le monde entier. Mais il arrive aussi, hélas, qu'elle mène au nadir. La douce flamme qu'on approchait pourra alors nous consumer. Ne reste alors plus qu'à supplier. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Autre expérience limite, celle de l'anéantissement du soi. Après avoir quitté le monde du spectacle parce qu'il en avait vécu à l'excès toutes les expériences et toutes les tentatives, ces interminables tournées épuisantes avec le bonheur, disait-il le soir, de non pas s'endormir mais de tomber évanoui, Brel découvrira à New York l'opéra « L'homme de la Mancha ». Il le traduira en français et le jouera. Après tout, Don Quichotte, l'homme de la quête, rêvant un impossible rêve et cherchant sans jamais renoncer à atteindre l'inaccessible étoile, c'était lui. Brel s'essayera ensuite au cinéma, comme acteur d'abord, puis comme réalisateur. Lui qui avait toujours été du nombre de ceux qui ne sont en mer, de ceux qui sont en mer, partira ensuite en voilier pour un tour du monde. Malade, il se fixera aux Marquises, là où gémir n'est pas de mise. Durant ces trop brèves 49 années parmi nous, Brel aura vécu de nombreuses vies, chacune à l'excès. L'une d'entre elles, pour nous, notre plus grand bonheur, aura été celle d'auteur-compositeur-interprète. Brel est mort, mais cette part de sa vie reste bien vivante et chacun de nous peut encore en jouir. Je vous souhaite même d'en jouir à l'excès.
Standaise pleure sur sa chaise, le chat soupèse son poids d'amour dans le silence, son chagrin danse et les vieux pensent chacun son tour à la cuisine, quelques voisines parle de Chine et d'un retour à Singapour. Une javanaise devient belle-sœur de l'ostendaise. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend et le temps espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. notre ostendaise que rien n'apaise. De chaise en chaise va sa blessure. Quelques commères, quelques compères battent le fer de sa brisure. Son capitaine sous sa bedaine de bière pleine bat le tambour. Homme de voile, homme d'étoile, il prend l'escale pour un détour. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens. Il y a les vivants et ceux qui sont en ostendaise. Au temps des fraises devint maîtresse d'un pharmacien. Son capitaine mort sous bedaine joue les baleines, les sous-marins. Pourquoi ma douce, moi le faux mousse, que le temps pousse t'écrire de loin. C'est que je t'aime, et tant je t'aime, qu'est peur ma reine d'un pharmacien. Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens. Il y a les vivants et moi je suis en mer.
Alors oui, c'était Jacques Brel qui nous chantait, ou qui chantait, l'ostendaise.
Merci beaucoup. Francine, tu poursuis avec un article de La Presse.
Oui, La Presse Plus, déposait son téléphone et plantait des arbres. C'est pas inintéressant. C'était dans l'édition du 18 février 2018. Alors Nicolas Bérubé nous parle d'une application. Il y en a plusieurs qui peuvent nous aider à décrocher. Mais Forest, Technologie Forest, qui récompense en plantant de vrais arbres autour du monde. Vous devriez être en train de finir un travail, mais votre téléphone avale votre attention à la manière d'un trou noir. Que se passera-t-il si votre téléphone vous récompensait pour que vous cessiez de l'utiliser? Ou mieux encore, s'il faisait un bon geste pour la planète en votre nom? C'est l'idée originale derrière Forest, une application qui nous incite à déposer notre téléphone et à cesser de procrastiner, et qui plante des arbres bien réels pour nous aider à y arriver. L'application connaît une hausse exponentielle de popularité. Elle a été téléchargée plus de 500 000 fois l'an dernier et rejoint aujourd'hui plus de 1 million d'utilisateurs enregistrés dans 85 pays. John Leary, le directeur général de Trees for the Future, l'organisation partenaire chargée de planter les arbres, explique avoir été surpris par la popularité de l'application. Tout le monde a un téléphone et tout le monde gagne à rester concentré, dit-il en entrevue téléphonique, depuis le Maryland où est établie l'organisation. C'est une façon amusante de combattre ce réflexe de consulter son téléphone. Ces derniers temps, l'application a vraiment décollé. 3,6 milliards, c'est le nombre de minutes que les utilisateurs de Forest ont passées sans consulter leur cellulaire en 2017. Cela correspond à 6 900 années. L'application est simple. Vous réglez un compte à rebours pouvant aller de 10 à 120 minutes, durant lesquelles vous vous engagez à ne pas consulter votre téléphone. Un petit arbre grandit à l'écran et vous accumulez des points si vous réussissez à laisser votre téléphone de côté. Si vous utilisez votre téléphone, votre petit arbre meurt, tout ça à cause de vous. Lorsque vous avez accumulé assez d'arbres et de points, vous pouvez les échanger et Trees for the Future plantera un vrai arbre pour vous dans le monde. À ce jour, les utilisateurs de Forest ont contribué à planter 233 180 arbres, dont plus de 150 000 en Afrique, notamment au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. John Leary explique que la majorité des arbres sont plantés en Afrique, car c'est là qu'on retrouve les plus hauts taux de déforestation, de pauvreté et de malnutrition. Trees for the Future a planté plus de 150 millions d'arbres dans le monde depuis 30 ans grâce au soutien financier de partenaires commerciaux et du grand public. Ce sont des façons créatives d'arriver à notre objectif, qui est de planter des arbres et d'améliorer la vie, ajoute M. Leary. Alors voilà, c'est une des nombreuses applications contre, je dirais, la dépendance au téléphone. Mmh. Et on en parlait dans la presse plus de dimanche dernier. C'est Nicolas Bérubé nous a rapporté finalement les bienfaits de cette application.
Très intéressant, du jardinage technologique ben voilà, en quelque
c'est
sorte.
Ben c'est ça, c'est ça. Merci on prend beaucoup. Le téléphone pour jardiner.
Super, merci beaucoup, Français. On poursuit après cette courte pause, les Voix de service magazine. C'est tous les vendredis, ben, tous les jours de la semaine, on vous présente des articles de magazine. Donc, on se retrouve dans quelques instants.
Le groupe s'appelle Groenland et la chanson « Our Last Shot ».
Merci beaucoup. Alors, on revient, les voix de service magazine, Catherine et Francine. J'ai envie de vous lire un article sur Dumas. On est très dans les chansons, de ma part, je suis très dans les chansons aujourd'hui. C'est un article qui est paru dans le magazine Voir. C'est un article qui s'appelle « Dumas, le cours des années ». Pardon. En décembre, Dumas annonçait un nouveau disque, « Nos idéaux », et lançait un premier extrait pop-rock planant au thème fort, celui de la remise en question. La chanson « À l'est d'Éden », c'est le point de départ de l'album, mais aussi un point de départ du processus de ce sentiment d'être un peu perdu, de ne pas être sur son X, commente le chanteur. Tu te demandes si c'est un hasard ou une erreur que tu te sois rendu là. Tu te questionnes sur tes choix de vie. Nos idéaux, qui arrive 3 ans après un second album éponyme, est un disque bien ancré dans des questionnements du présent que l'on tente de résoudre en regardant dans le rétroviseur. T'as pas les mêmes idéaux à 20 ans qu'à 38 ans. C'est une exploration de qui j'étais, de ce que je suis devenu et de l'idée d'avoir de nouveaux rêves. Quand j'avais 20 ans, je voulais vraiment faire de la musique et quand je suis arrivée à 30 ans, j'avais accompli de belles choses. J'ai eu une trentaine un peu bizarre et je me demandais ce que je devais faire. L'album est l'aboutissement de toutes ces réflexions. Les clins d'œil au passé sont nombreux sur nos idéaux. Et on a même parfois des dates précises qui nous ramènent en arrière à des époques importantes de la vie et de la carrière de Dumas. La guitare acoustique et la nostalgie sont reines sur 1995 et puis sur Vertigo, chanson pop parfaite pour danser. On revient en 2003 à l'époque du disque phare du chanteur, Le cours des jours. Dans 1995, je me remémore mes idéaux à 15 ou à 16 ans, ce que j'appréhendais dans la vie, commente Dumas. Pour Vertigo, je trouvais ça intéressant de revisiter cette époque spéciale qui était comme un vertige avec le succès et la tournée. D'autres titres de nos idéaux parlent de ses proches. La touchante « Le déserteur » de Fort Alamo est une chanson sur mon père et l'énergique « Bleu clair » menée par les Clavaliers pour laquelle le chanteur précise une influence d'Alain Souchon, est à propos de son fils. « J'ai jamais été si personnel », confirme Dumas. « Je suis dans une période sans filtre. Je suis sobre depuis un an. Depuis ce temps, on dirait qu'un des gros effets, c'est que je n'ai plus de tolérance pour la bullshit, les trucs faux. » Ça a eu un gros impact sur l'album, sur l'écriture. Je restais concentrée et je n'avais pas le goût d'être fake. Pour mener à bien cet album très personnel, mais dont les thèmes restent universels, d'ailleurs, le titre de l'album est la chanson « Personne » est la première personne du pluriel, mais la chanson « Mes idéaux » à la première du singulier, Dumas a fait appel à son bon ami Jonathan Arnois, parolier et auteur. Un ping-pong d'écriture a été la genèse de ce nouvel album de la bête de scène derrière Jair, Miss Ecstasy et Au gré des saisons. Sans avoir de musique ou savoir si ça allait donner des chansons, on travaillait sur des textes ensemble. Jonathan a eu une super sensibilité, donc on s'est mis à creuser dans ce que je voulais dire. Il m'a fait assumer des choses. Les thèmes se sont dessinés tout seuls, instinctivement. Côté musique, Dumas brasse les cartes pour un second disque de suite. Après avoir travaillé avec Jonathan Dauphinet et Étienne Dupuis-Cloutier pour l'album Dumas en 2014, il s'est associé cette fois-ci au talent du réalisateur Gus Van Gogh, derrière les plus récents albums des Trois Accords, et du duo des compositeurs Like Minds, Chris Supper et Jesse Singer, qui œuvrent davantage dans le hip-hop. Les trois partagent un studio à Brooklyn, où a été enregistré Nos idéaux. En vieillissant, je trouve ça plus intéressant de m'ouvrir et de collaborer avec d'autres gens, indique Dumas. Au printemps passé, j'avais pas mal de chansons, mais je ne savais pas avec qui travailler. J'étais un peu perdue et je ne savais même pas si c'était encore pertinent de faire un disque aujourd'hui. Tu sais, tout ce questionnement existentiel par rapport à la création. Puis un jour, comme ça, j'ai reçu un courriel de Gus Van Gogh. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Il m'a dit « On va essayer de faire une chanson, mais je tiens à ce que tu travailles avec les deux New-Yorkais qui sont dans mon studio. » On a fait mes idéaux en une journée. Tout ça, c'est un hasard qui a vraiment clarifié les choses dans ma tête. Si l'expérience est avérée assez spéciale, puisque le trio n'était pas vraiment familier avec les albums de Dumas, le chanteur a été très attiré par une rencontre avec l'inconnu et une collaboration musicale qui ne tiendrait pas compte du passé. L'énergie a été renouvelée, bien sûr, mais on retrouve sur nos idéaux toutes les qualités du mélodisque qui ont fait la renommée de Dumas, en plus du mélange planant dansant qu'on lui connaît. Les musiques plus synthétiques que sur son album ont lancé la carrière du chanteur s'avèrent toutefois en écho avec ses albums des débuts. Assez instinctivement, les gars ont voulu explorer avec Juno des beatbox et des synthétiseurs vintage, des choses que j'avais utilisées pour le cours des jours, mais sans qu'il l'ait entendu. Pour cet album, j'avais aussi décidé d'assumer le côté Talking Heads, LCD Sound System et Beatboxing qui a toujours été là dans la musique que j'aime. Tout ça était aussi très présent dans la tournée que je venais de compléter. Cette collaboration naturelle et instinctive a permis à Dumas de mieux se concentrer sur la création de chansons, dit-il. Et c'est exactement ce qu'il recherchait puisque sa prochaine tournée sera en trio. La dernière tournée sur la piste de danse en duo l'a menée sur plus de 150 scènes. Cette fois-ci, il se mettra en danger seul sur scène avec ses chansons pour la première fois depuis au moins 10 ans. J'ai vraiment un désir de revenir à la chanson. L'idée de la tournée solo, qui m'est venue à l'esprit avant même de faire l'album, vient de là. C'est de revenir à ce truc que j'aime le plus faire. Donc j'ai le goût de le peaufiner. Mais pour moi, je le vois plus comme un nouveau départ. J'aime ça me donner des défis, me garder actif et créatif. Poursuit celui qui, on s'en souvient, avait bravé la crise du disque il y a quelques années en sortant 5 mini-albums en un an. Ce renouvellement en vieillissant est resté pertinent. C'est un grand défi à long terme. J'avais peur de tomber dans un piège, de continuer dans l'ambiance très « entertainer » de la tournée en trio. J'avais le goût de revenir au toon. Un album fait au nous, pour mieux s'assumer et revenir au je, donc. Un nouveau départ qui fait du bien entendre, à vivre sur les planches cette année.
C'était hier, je revenais de l'Angleterre, j'errais en solitaire. Quand je suis tombé dans tes yeux, tout est devenu bien mystérieux. Tu m'as fait prendre toutes les chances, j'ai même risqué la piste de danse. Le destin avait les yeux bleus clairs. Sous un soleil incandescent, tu as fait s'arrêter le temps. Le destin avait les yeux bleus clairs. Et un sourire incandescent, sous un soleil éblouissant. Pour l'amour, rien n'était moins clair. Il faudra voir, il faudra faire. Tu n'as rien voulu me promettre, sinon la vérité peut-être. La danse a compliqué ses pas. Un vent jaloux est monté en moi. Faute à tes yeux, faute à mon cœur. Si je suis fou de ta lueur, le destin avait les yeux bleus clairs. Sous un soleil incandescent, on s'est égaré dans le vent, le vent. J'ai marché, marché jusqu'au bout de toi. J'ai marché, marché jusqu'au bout de toi. J'ai marché, marché jusqu'au bout. Et on a fait un grand détour.
chemin le plus court. Le chemin était vraiment clair. Sous un soleil incandescent, tu m'as dit que c'était le temps. Notre destin est né les yeux bleus clairs. Notre destin est né les yeux bleus clairs. Et son sourire incandescent est un soleil éblouissant. Le destin avait les yeux bleus clairs. Oh, oh, oh. Le destin
à ça, justement, le destin a les yeux bleus clairs. C'était évidemment une chanson de Dumas.
Merci beaucoup, Mathieu. Francine, un tour vers le portrait au féminin.
Oui, Brenda Milner, qui est une femme de tête, une jeune chercheuse de 99 ans, qui continue de sonder les mystères du cerveau. L'entrevue avec cette pionnière des neurosciences à la mémoire vive a été menée par Marine Corniou et publiée dans le Québec Science. Toujours l'édition du janvier-février 2018. Madame Milner, votre travail auprès du patient HM, rendu amnésique à la suite d'une intervention chirurgicale, a été fondateur pour les neurosciences. Votre nom est cité dans toutes les publications en lien avec la mémoire. En quoi le cas de HM était-il si important? Il ne faut pas trop se focaliser sur ce patient-là. C'est vrai que je l'ai présenté au monde, mais le travail fondateur, je l'ai fait ici, à l'Institut neurologique de Montréal, avec les malades du Dr Penfield, célèbre neurochirurgien qui a révolutionné la science du cerveau. C'est parce que j'avais étudié les troubles de la mémoire ici que j'ai été invitée à suivre le patient HM aux États-Unis. Sinon, pourquoi aurait-on proposé à une jeune femme canadienne, j'étais jeune à l'époque, de poursuivre ses recherches au Connecticut? Madame Milner, à l'époque, peu de techniques permettaient d'étudier le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. Comment faisiez-vous? Pour étudier le cerveau, on devait souvent attendre la mort de nos sujets. Les études faites sur la mémoire étaient menées chez des gens âgés, ce qui rendait les choses difficiles, car ils avaient toutes sortes d'autres problèmes. Ici, à l'Institut, ce qui était bien pour la recherche, c'est que les malades étaient jeunes. Ils venaient de subir des interventions au cerveau pour traiter l'épilepsie. Évidemment, on ne pensait pas que ces opérations entraîneraient des troubles de la mémoire. Autrement, on ne les aurait pas effectués. D'ailleurs, l'étude de la mémoire n'était pas à la mode quand j'ai commencé. Je travaillais sur la perception visuelle, un sujet de recherche très populaire. Mais les malades du Dr Penfield n'avaient pas de troubles visuels et ils se plaignaient de problèmes de la mémoire. Je les écoutais et je me suis intéressée à eux. Madame Milner, l'étude de ces patients vous a aussi permis de mieux définir les rôles de chaque hémisphère cérébral et de montrer qu'une région lésée pouvait être compensée par une autre. Sa réponse. Oui, en plus, j'ai eu l'occasion, il y a 50 ans, d'aller en Californie étudier les malades de Roger Sperry, un neuropsychologue américain, lauréat du prix Nobel de la physiologie en 1981 pour ses travaux sur le fonctionnement des deux hémisphères cérébraux. Il collaborait avec un chirurgien qui traitait l'épilepsie en déconnectant les deux hémisphères pour éviter la propagation des crises. J'étudiais le rôle de l'hémisphère droit chez les animaux et Roger Sperry m'a dit « Si vous voulez vraiment voir ce que fait l'hémisphère droit, prenez l'avion et venez voir mes patients. » C'est fascinant dans un cerveau typique. L'hémisphère gauche est vraiment dominant pour le langage et l'hémisphère droit est le siège de l'intelligence spatiale. Aujourd'hui, je m'intéresse toujours à la mémoire, mais aussi et surtout à l'interaction entre les deux hémisphères. Les cas comme HM et les autres patients amnésiques sont-ils toujours aussi importants en neurosciences? Ces cas restent toujours importants, mais maintenant on utilise d'autres techniques, en particulier l'imagerie fonctionnelle. Ce qu'on veut vraiment comprendre, en fait, ce n'est pas le fonctionnement du cerveau lésé, c'est celui du cerveau normal. Avec le scanner, on peut voir le cerveau normal en action. On n'a plus besoin d'attendre l'ablation chirurgicale d'une région pour comprendre à quoi elle sert. Ces techniques d'imagerie sont ouvertes à tout le monde. Au début, il y avait beaucoup de publications qui avaient recours, mais qui ne valaient pas grand-chose. Les scientifiques les utilisaient juste pour le plaisir de publier des images. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il faut avoir une bonne question de départ et une méthodologie solide. Justement, Mme Milner, quelles sont les qualités qui vous ont permis de réussir en science? Je suis méthodique. On ne réussit pas en science sans ça. J'ai aussi beaucoup de patience. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis née comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis patiente pour tout dans la vie. Si j'attends quelqu'un au restaurant, je ne le suis pas. Mais quand on étudie quelque chose, on doit se laisser le temps de voir ce qui se passe. On ne peut pas presser les malades, ni les rats de laboratoire d'ailleurs. Vous avez étudié en mathématiques à Cambridge, puis en psychologie à la fin des années 1930. On a dû souvent vous poser la question, mais ce n'était pas banal pour une femme de suivre ce chemin à cette époque. Étiez-vous particulièrement tenace? J'avais une passion et j'étais très ambitieuse. Une fois, il y a longtemps, on m'a conseillé lors d'une entrevue de ne pas dire que j'étais ambitieuse, car c'était mal vu. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, je n'avais pas le choix. J'ai dû m'entêter pour obtenir des bourses et des financements. Heureusement, j'ai toujours eu cet esprit de concurrence. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, surtout chez les femmes, même si ça change aujourd'hui. Venez-vous d'une famille de scientifiques? Non, mes deux parents étaient musiciens. Mon père était critique de musique pour le quotidien The Guardian. Ma mère enseignait le chant. Mais je n'ai absolument pas l'oreille musicale. Au lycée, quand les premières notes de l'hymne « God Save the King » résonnaient, je me levais toujours après les autres filles. Je ne reconnaissais pas l'air. Mon cerveau est plus adapté au langage qu'à la musique. Vous avez 99 ans et votre mémoire est intacte. Mais diriez-vous que vos souvenirs sont différents avec le temps? Les nouveaux apprentissages sont plus difficiles, mais c'est vrai même à l'âge de 60 ans, ou plus tôt. Par exemple, si vous me donnez une liste de mots à retenir, je ne réussirai pas bien. Par contre, mes souvenirs personnels restent précis. Et les souvenirs les plus anciens prennent un peu plus de force. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus fidèles. Est-ce qu'ils correspondent à la réalité? Ça, personne ne le sait. En tout cas, j'en ai ma propre version, celle que je préfère. Alors, Mme Brenda Milner s'est confiée à Marine Cornoux dans le Québec Science de janvier-février 2018.
Continuez dans la vague musicale que j'ai entamée aujourd'hui, je vous propose la chronique de Monique Giroux. C'est une chronique qui s'appelle « Sur mesure ». Son article de ce mois-ci s'appelle « Ici Monique Musique ». Il m'arrive de me réveiller avant le soleil qui, lui, dort assurément trop longtemps à cette époque de l'année. Le plus souvent, j'émerge vers 4 heures. Quand l'espoir d'une nuit complète s'évanouit, quand le sommeil a tout de même fait à peu près son boulot, et pour ne pas laisser mes neurones partir en vrille et que je me mette à refaire le monde en pyjama, j'écoute la radio. Discrètement, pour ne pas réveiller l'amoureuse, un tout petit écouteur glissé au creux de l'oreille qui me branche sur une ampli formidable tune in. Et hop, me voilà parti pour un tour. Peut-être qu'avant d'aller plus loin dans la rédaction de mon récit, devrais-je, comme Cindy, la youtubeuse qui a publié une vidéo d'un gonflable de lèvres en échange d'un gonflable de lèvres gratis, négocier un partenariat avec le gestionnaire de l'appli et ainsi obtenir pour cette chronique un cachet considérant, sonnant et trébuchant. Ou mieux, l'utilisation d'une voiture aux couleurs de TuneIn, comme des photos de moi faisant le plein du dit char. Vous aurez compris que je ne suis pas commanditée par l'appli TuneIn qui, de toute façon, est gratuite dans sa version de base, même si j'ai opté pour la version pro payante et donc sans pub, vu l'utilisation boulimique que j'en fais en et mon aversion chronique des pubs à la radio. 100 000 stations de radio. J'ai accès à 100 000 stations de radio dans mon téléphone à 4 heures du matin, à des millions d'émissions et de podcasts. Il faut d'abord choisir son genre, musique, actualité, sport, mais ça, ce n'est pas mon truc. Ou alors choisir une langue ou un pays. Cette opulence est vertigineuse. Je vous accorde que je n'écoute jamais la radio en azéri, ni les émissions débats en gujari, ni les émissions d'humour en ouzbek. Pas plus que les 17 radios de l'Azerbaïdjan. Écoutez cependant Whitney Houston sur la radio Retro 895 de Reykjavik, peut-être assez tripatif. Rouler sur la 20 en pleine tempête en écoutant la radio thaïlandaise aussi. En un clic, on peut même enregistrer ce qu'on écoute ou reculer pour être bien certain d'avoir capté correctement le propos. La Rolls-Royce des applis, je vous dis. Le plus souvent, au milieu de la nuit, alors que nos radios locales diffusent de la musique en continu, ou des tribunes téléphoniques post-défaite du Canadien, je choisis, dites-moi que ça vous étonne, la radio publique, celle qui cause, la BBC, Radio France, particulièrement France Culture. La grande table, les pieds sur terre, les chemins de la philosophie, j'aime me faire bercer par des voix jolies qui finiront bien par leur ronron à m'endormir. La première fois que nous nous sommes rencontrés, les chemins de la philosophie et moi, ils étaient précisément 4 heures. L'animatrice Adèle Van Reth, qui connaît visiblement son sujet, proposait le premier de 4 épisodes d'une heure autour du thème « Qui a tué Socrate ?». À cet instant, je me suis dit là que notre relation ne durerait pas, ou plutôt si, qu'elle durerait longtemps en remplissant assurément la soporifique mission. Eh bien non, je ne me suis jamais rendormie. Et depuis, toutes les nuits à 4 heures, me voilà réveillée pour connaître la suite, l'histoire de Socrate, mais aussi celle racontée dans Sartre, L'être et le néant, en 4 épisodes. Je sais que je peux les écouter en rattrapage, en podcast, mais ce que je veux, c'est du vrai, du cru, du direct. Une messe, quoi. Je veux être là, pas toute seule, mais avec d'autres qui écoutent la même chose que moi, en même temps que moi. Nous avons atteint un sommet, les chemins de la philosophie et moi, grâce à la série La chanson populaire. Invitée à l'émission, Jeanne Prousse, prof de littérature et de philosophie à l'Université de New York et auteure de Sentiments d'injustice et chansons populaires, cite son homonyme, Marcel Proust. Cet écrivain qui, depuis un siècle, nous fait chercher le temps perdu qu'on ne trouve jamais, avait donc une opinion sur la chanson populaire. J'ai fermé mon appli, secoué mon oreiller, me suis levée. J'ai entrouvert la fenêtre, respiré un bon coup. Je me suis remis au lit, il devait être 5h30. Je me suis rendormie en fait rassurée de ne pas avoir tout compris. C'est pour ça que je continuerai à parler de chansons, dimanche, dans mon émission. Alors voilà, c'était un article du magazine Voir du mois de février, écrit par Monique Giroux dans sa chronique Sur mesure, ici Monique Musique. C'était un petit aparté musical pour ma part. Francine, la semaine prochaine, tu ne seras pas là?
Non, malheureusement, mais rendez-vous dans 2 semaines.
Dans 2 semaines,
toujours
certainement.
Toujours avec des chroniques et articles sciences et technologies.
Merci beaucoup. Sinon, bien, Hélène sera avec nous la semaine prochaine. On vous souhaite entre-temps une très belle semaine, un beau week-end. Il va faire chaud, je crois, un peu la semaine prochaine. Profitez-en bien. On se revoit vendredi prochain.